Il ne percevait pas. Pourquoi? Et là, il tapait dessus. C'était précisément celui qu'ils humiliaient, celui qui n'était pas reconnu, qui était le principe de leur salut. Donc il y a quelque chose qui aveugle les hommes. Nous sommes empêchés de reconnaître la réalité. Dieu se cache dans celui que nous opprimons. Qui a cru à notre écoute, à ce que nous disons, et le bras du Seigneur à qui a-t-il été révélé? On est toujours, comment dirais-je, impuissant ou réticent, généralement les deux, à reconnaître la présence de Dieu dans le petit, le pauvre, l'humilié, et en nous-mêmes quand nous le sommes. Et puis alors, il vous raconte l'histoire du serviteur et comment le serviteur a été glorifié. Comme un surgeon, il a grandi devant nous, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat et sans aimable apparence. Jésus va à Jérusalem pour vivre sa passion. Jésus va à Jérusalem pour vivre sa glorification. C'est la même chose. Objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et connu de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face. Il était méprisé et déconsidéré. Or, c'était nos souffrances qu'il supportait, et nos douleurs dont il était accablé. Et nous autres, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Nous sommes présents en fait. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Le chemin que Jésus fait à Jérusalem, qui est un chemin d'humiliation, est un chemin de salut pour nous. Et salut, c'est dit aussi exemple, évidemment. Tous, comme des brebis, tiens, mon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Tous, comme des brebis, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, parce que nous préférons la gloire qui vient des hommes, notre propre chemin, que la gloire qui vient de Dieu. Chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui les crimes de nous tous. Il est devenu la victime de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il est chacun d'entre nous. Il est celui qui nous opprimait. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Et nous allons voir le silence de Jésus à la passion. Comme un agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comme un agneau conduit à la boucherie, comme devant les tondeurs une brebis muette et n'ouvrant pas la bouche. Par coercition et jugement, il a été saisi. Qui se préoccupe de Jacques? Oui. Il a été retranché de la terre des vivants. Pour nos péchés, il a été frappé à mort. On lui a dévolu sa sépulture au milieu des impies et son tombeau avec les riches. Alors qu'il n'a jamais fait de tort, ni de sa bouche proféré le mensonge. Vous, vous êtes du père du mensonge. Vous avez comme père hein, celui qui est le mensonge, comme ici. Le Seigneur sait plus. Pour ne pas lire dans ce « c'est plus », nous avons vu l'année passée, quelque chose de sadique. C'est-à-dire, le Seigneur a fait librement, l'a librement permis qu'il soit écrasé par la souffrance. S'il offre sa vie en expiation, puisqu'il offre sa vie en expiation, il verra une postérité. Il prolongera ses jours, pour que la mort n'ait pas le dernier mot. Et ce qui plaît au Seigneur s'accomplira par lui. Après les épreuves de son âme, il verra la lumière, ce sont des têtes joannées qui sont plaidées ici, et sera comblé. Par ses souffrances, mon serviteur justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi je lui attribuerai les foules, en termes johanniques, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est pourquoi je lui attribuerai des foules, et avec les puissants il partagera les trophées, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Ma vie, on ne me l'arrache pas, je la donne de moi-même. Et qu'il a été compté parmi les pécheurs, alors qu'il supportait les fautes des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. De nouveau, vous avez un texte qui est tout juste prêt à être rempli par une figure historique. Quel est ce serviteur? On a dit, mais vous savez, Jean ne parle pas du serviteur. C'est un terme qui est presque exclu du Nouveau Testament. Vous le trouvez dans les Actes des Apôtres, vous le trouvez quelque peu chez Matthieu, mais le terme serviteur n'est pas de Jésus, bien que Jésus dise, je suis, vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien je le suis, eh bien je suis, moi le maître et seigneur, comme celui qui sert. Il n'est pas le serviteur. Donc voilà, il ne dit pas, il n'utilise pas le terme du serviteur. Mais il nous dit que c'est Isaïe qui a dit cela. Et il nous dit que Jésus va accomplir la parole d'Isaïe. Donc il remplit vraiment la figure du serviteur et il cite le premier verset à des gens qui connaissent la suite. Le premier verset du chapitre 50. Et justement, après cela, qu'est-ce que vous allez avoir? La fécondité de Jérusalem. Donc c'est comment, à travers la mort, la vie débouche. Et c'est ce qui va être exprimé par saint Jean aussi, donc il utilise bien Isaïe. Et voyez pourquoi ce n'est pas un hasard de voir Isaïe, saint Jean, après avoir vu Isaïe. Il va nous montrer précisément dans la personne de Jean à la croix et de Marie, la nouvelle fécondité de Jérusalem. Mais voilà qu'il raccroche ce passage du serviteur à un autre passage d'Isaïe. En raison de ceci, il ne pouvait pas croire, comme s'il voulait expliquer notre incapacité à croire, notre non-foi. En raison de quoi il ne pouvait pas croire. Parce que de nouveau, il dit Isaïe. Il ne pouvait pas croire parce qu'il se trouve exactement dans la logique, je traduis maintenant, parce qu'il se trouve dans la logique de la pensée d'Isaïe, qui est unique pour l'auteur de l'évangile de Jean. Il n'y a pas un premier Isaïe, un deuxième et un troisième. Et, comme je vous l'ai dit l'an passé, moi je ne crois pas non plus qu'il y en ait un, deux, trois. Il y a bien sûr trois grandes couches rédactionnelles, mais ce livre a été composé comme une unité, du moins par son rédacteur final. Et il nous dit, voyez, ce serviteur est au fond la réponse, l'image du serviteur du chapitre 52-53, du serviteur qui souffre, est au fond la réponse à la vocation dure d'Isaïe le prophète au chapitre 6. Nous avons vu que la vocation d'Isaïe ne se trouvait pas tout au début du livre. On a d'abord, pendant 5 chapitres, entendu la parole du prophète à des gens qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas écouter. On dirait que les gens s'endurcissent. Et puis, au chapitre 6e, l'auteur du livre d'Isaïe nous dit, eh bien, c'est exactement cela qui était la mission d'Isaïe, une mission d'endurcissement. Qu'est-ce que c'est qu'une mission d'endurcissement? Pourquoi est-ce qu'on envoie quelqu'un pour le bloquer ou le buter? En fait, c'est une provocation. Le prophète doit provoquer l'homme. L'homme qui ne voit pas, il voit bien que sa situation n'est pas enviable. Il voit bien qu'il y a des fautes, il voit bien que les structures de la société ne sont pas telles qu'elles devraient être. Il voit bien qu'on tourne les lois de tous les côtés. C'est le portrait qu'il nous fait de la ville de Jérusalem pendant les 5 premiers chapitres. Et qui sont un procès. Et nous avons vu que tout le deuxième Isaïe était aussi un procès. Vous voyez d'où Jean tire la structuration de son évangile sous la forme d'un procès. Et il y a une accusation au début du procès, comme il y avait une accusation au début de l'évangile de Jean. Après nous avoir proposé le plan de Dieu très brièvement dans le prologue, il nous montre que ce plan de Dieu est dès le début battu en brèche. On met en question le témoin. Et ici aussi, le témoin, Isaïe, est mis en question par les gens auxquels il parle. On ne veut pas l'écouter. Ils ne veulent pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas m'écouter, dit Dieu à Ézéchiel, car c'est une engeance de rebelles. Et que voit Isaïe ? Il voit le Dieu saint, il voit la sainteté de Dieu dans son temple. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armes. Voilà la vision. Et puis, il est purifié par le séraphin, et il entend la voix du Seigneur, et il entend la voix. Il lui dit, qui enverrai-je, quel sera notre message, c'est le messager. Il répondit, me voici, envoie-moi. Va et dit à ce peuple, ce peuple avec un accent qui nous paraît péjoratif, c'est à nous qu'il s'adresse, hein, et à ce peuple. Écoutez de toutes vos oreilles sans comprendre, voyez de vos yeux sans apercevoir, apesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, bouche-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse. Et puis, la fin, on peut la traduire de deux manières différentes. Ou bien, et il y aura guérison pour lui. Ou bien, comme le font la majorité des traductions, et qu'il ne soit guéri. De peur qu'il ne soit guéri. C'est vrai que l'hébreu est encore un peu ambigu. De telle manière qu'on peut le comprendre, comme je vous le dis, de deux manières. Endurcis-le jusqu'au bout. Parce qu'il ne veut vraiment pas guérir. Il ne veut pas devenir guéri. Il ne veut pas accepter une parole qui le dépasse. Il veut tout pouvoir gérer. C'est une acception de la parole. Ça peut vouloir dire aussi, et il y a quand même une guérison pour lui à travers tout ça. Et les deux acceptions sont correctes. Provoque-le jusqu'au bout de lui-même. Et la provocation est le chemin de la guérison. Quand Dieu me fait l'honneur de me révéler mon péché jusqu'à sa racine, et de me révéler ma responsabilité, il n'a plus qu'une chose à faire, me faire la grâce de me sauver. La seule chose qu'il me demande, c'est que je reconnaisse que je me bute et que j'ouvre les mains. Je dis, jusque à quand ? Est-ce qu'il y aura un terme à cette mission ? Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, inhabitées, les maisons sans personne, la campagne déserte. Tant que ça va bien, les gens ne parviendront pas à en revenir. Quand ça ira mal, quand ils n'auront plus eux-mêmes de solution, peut-être bien qu'ils vont se tourner vers moi. Et que le Seigneur en chasse les gens. Un grand vide se fera dans le pays. Et s'il subsiste encore un dixième des gens, il sera dépouillé comme un térébinthe, que l'on taille, qui n'a plus qu'une souche une fois abattue. La souche, c'est une semence, c'est ça. Voilà tout Isaïe. Et voilà tout Saint-Jean. Avec une différence essentielle, le prophète ici fonctionne un peu comme Jean-Baptiste. Et le serviteur, d'Isaïe, qui était une figure, devient la personne historique de Jésus. Avec tout, toute la différence qu'il y a entre une figure et une réalisation historique d'un serviteur qui est en même temps le Fils de l'homme. Voilà pourquoi Saint Jean préfère de loin au terme de serviteur le terme de Fils de l'homme, même si ce Fils de l'homme se profile vraiment sur l'horizon comme le serviteur d'Isaïe. Pourquoi? Parce que ce terme Fils de l'homme dit bien l'humanité de Dieu, l'humanité du Fils de Dieu. Dieu qui s'est mis à notre disposition, en solidarité totale. Mais Dieu qui se met à notre disposition a une intention, c'est de nous faire accéder à l'intimité divine. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est tourné vers le Saint-Père, lui nous l'a fait connaître. Lui a été chemin vers le Père. Nous le faire connaître pour nous y donner accès. Vous vous rappelez qu'il y avait une échelle sur laquelle montaient et descendaient les anges. Et voici que cette échelle va devenir la croix pour que nous remontions vers Dieu. Les pères de l'Église y ont vu toujours l'échelle de Jacob dans la croix. Alors ce texte a été important pour l'Église primitive, puisque vous le retrouvez dans chacun de nos évangiles et dans les actes des apôtres. Dans saint Marc et dans saint Matthieu, un tout petit peu, vous n'en trouvez qu'un tout petit morceau dans Saint-Luc, vous le trouvez au milieu du discours sur les paraboles. Saint-Marc chapitre 4, Saint-Matthieu chapitre 13, au centre de ce discours. Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Pour que, ou parce que, vivant Matthieu ou Marc, voyant ils ne voient pas, entendant ils n'entendent pas. Je leur parle en parabole parce que le discours de Dieu est trop fort pour eux. Il faut leur donner des lunettes de soleil pour voir le soleil. Sinon, ils risquent de se faire mal aux yeux. Pourtant, le soleil est fait pour eux. Mais leurs yeux sont trop faibles pour reconnaître le soleil. Donc la parabole est en même temps un moyen de révélation, je peux quand même regarder le soleil. Mais c'est en même temps un écran. Je le regarde sans le regarder. Je le regarde en acceptant de recevoir ce que je peux goutte à goutte. Donc c'est comme ça que la parabole fonctionne. Qu'est-ce que la parabole? Jésus selon Marc. La parole, se livre en parabole. Chapitre 4. Donc c'est le langage de Jésus qui est un langage qui endurcit, c'est-à-dire qui secoue le prunier, suivant l'expression que nous avions prise, qui nous dévoile, qui nous fait la grâce, qui nous fait l'honneur de nous dévoiler jusqu'où nous sommes mauvais, qui dévoile nos pensées homicides, vous voulez me tuer. Et si nous n'acceptons pas cela, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous devons être sauvés de tous nos instincts meurtriers, tous nos instincts de mort. Et c'est ça la profondeur de salut que Jésus nous révèle lui-même. Il nous le révèle maintenant en parole, il va nous le révéler par après, dans la figure de son corps. Son corps qui est librement donné pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Saint Luc, lui, utilise une toute petite partie de ces versets, endurcissement, au moment des paraboles. Et il remet à la fin des Actes des Apôtres, au moment où saint Paul arrivait à Rome, prêche aux Juifs, il leur révèle leur impossibilité à croire que la révélation de Jésus est vraiment l'obstacle majeur. La plus grande lumière est en même temps le plus grand obstacle. Jusqu'à ce que je découvre que ce que je voyais comme un obstacle ne l'est pas pour la lumière. Jusqu'à ce que je fasse ce saut périlleux de me retrouver en Dieu et de perdre ma vue personnelle. Le juif ne peut se convertir que s'il accepte ce qu'il a toujours attendu, le Messie. Qu'il l'accepte non pas à la manière dont il l'imagine, mais à la manière dont il lui est donné. C'est ce que Paul dit aux juifs de Rome. Bien, puisque vous ne voulez pas comprendre que ma parole vous dit la réalité de Jésus, je passe chez les païens, eux, ils écouteront. Puisque vous refusez d'aller jusqu'au bout de votre témoignage de juif, en le laissant s'accomplir en Jésus, il faut bien que moi, je prenne en main le peuple juif et que j'accomplisse la mission du peuple juif. C'est pour ça que Paul me dit, par exemple, c'est-à-dire que je fasse passer la résurrection au-delà de votre mort. Mais, disons ça maintenant. Mais dans tous ces textes qu'ils ont cités dans le Nouveau Testament, on utilise comme base non plus le texte hébreu, où il y a, comme je vous le disais, une ambiguïté, mais on utilise le texte de la traduction grecque de la Septante. Et dans la traduction grecque de la Septante, le texte est tout à fait clair. Appesantis le cœur de ce peuple, rendez-le dur d'oreille, bouche-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, et qu'il ne se convertisse. Et je le guérirai. C'est un présent et pas un subjonctif. Il ne dépend plus de... Ma guérison doit passer par leur mort. C'est en reconnaissant sa propre mort, en reconnaissant qu'on est tout plein d'intentions mortelles contre celui qui nous bouscule, c'est en reconnaissant cela qu'on peut recevoir gratuitement, au-delà de cette mort, la vie qui vient de Dieu et que j'attends de tout mon être. Il ne pouvait pas croire, parce que la foi doit accepter de passer par la nuit. Et le texte d'Isaïe est repris chez saint Jean ici, avec « Et je les guérirai ». Comment vais-je guérir ce peuple? Il faudrait maintenant revoir à travers tout le livre d'Isaïe, tout le sens, le théologien qui est en train de faire un travail là-dessus, le sens des yeux, des oreilles, qui sont tantôt aveugles, tantôt voyants, mais ils ne voient jamais exactement ce qu'ils voient, et ils ne voient pas ce qu'ils devraient voir, et la guérison. Le terme reparaît à travers tous les... Or, de tout le livre d'Isaïe. Or, dans la tradition chrétienne, la guérison est toujours apparue dans le chapitre 53e d'Isaïe. C'est par ces souffrances que nous sommes guéris. Vous avez remarqué, je l'ai lu tout à l'heure, je refais maintenant, je relis maintenant le texte pour que vous voyez bien sur quoi c'est basé. Tous, ah oui, avec Dieu. Or, c'était nos souffrances qu'il supportait, nos douleurs dont il était accablé, et nous autres, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé va revenir au chapitre 19, à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes, le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Autrement dit, la mort, qui est regardée comme un châtiment de Dieu, acceptée librement par lui, qui est à la fois un homme et tout homme, nous rend la paix. Et c'est grâce à ces plaies que nous sommes guéris. La guérison, nous ne pouvons pas l'obtenir par nous-mêmes. Nous devons la recevoir comme un acte gratuit de celui qui s'immole pour nous. Tout comme des brebis, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui les crimes de nous tous. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Ce qui manifeste, justement, quand on ne crie pas, ça manifeste la liberté incarnée. Il ne pouvait pas croire.
Mais la Bible de Jérusalem a mal traduit, hein?
Oui.
Et même les nouvelles églises.
Oui, je sais bien. Je sais bien. Ils mettent probablement une note, non?
Même pas.
Oui, moi j'ai ici une note, cette phrase de forme très sémitique qui sera reprise par les évangiles ne signifie pas que l'endurcissement du peuple soit directement voulu par Dieu. Il est prévu par Dieu, il entre dans ses desseins, donc il est voulu par Dieu. Hein. Et donc il ne doit pas décourager le prophète, bien sûr. Il ne doit pas décourager le prophète. Puisque je t'envoie à une mission impossible, c'est donc que moi je vais faire l'impossible. C'est pas du tout décourageant de dire qu'on va se buter constamment sur ses limites, sur ses pauvretés, sur ses impuissances. Il ne pouvait pas. Pas décourageant. C'est le signe que Dieu seul peut passer à travers. Pardon ?
La note est en Isaïe ?
Oui. En Isaïe. Ah, elle n'est pas en Saint. Il ne pouvait pas croire. Autrement dit, ne pensez pas que votre impuissance que vous reconnaissez, que nous reconnaissons chacun en nous, ne pensons pas que cette impuissance soit un obstacle pour Dieu. Il l'a prévu en quelque sorte. Il a prévu le passage à travers. C'est précisément ce que Saint Jean veut nous manifester. Saint Jean, verset 47, afin que je sauve le monde, veut mettre en évidence le salut qui s'opère. Le jugement de salut passe nécessairement par un jugement de condamnation du mal en nous. Cette condamnation des œuvres mauvaises, condition sine qua non pour une conversion des libertés. Ce n'est pas moi qui me convertis. Je reçois d'être converti, de devenir, je reçois l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et le croire, ce n'est pas nécessairement le sentir. Le croire, c'est le recevoir comme une certitude. Cela, il le dit Isaïe. Pourquoi ? Pourquoi Isaïe pouvait-il dire que la guérison va passer à travers l'endurcissement. Quelle grâce avait reçu Isaïe pour voir jusque-là? Mais parce qu'il voyait Jésus. La grâce d'Isaïe, c'était de voir Jésus, qui est la guérison. Et il le voyait à travers le visage du serviteur, mais qui était une figure. Parce qu'il vit la gloire de Jésus, sa gloire, et qu'il parla au sujet de Jésus, son sujet. Néanmoins, cependant, d'autres les chefs aussi, beaucoup plus vers lui. On ne croit pas, on ne peut pas croire, et beaucoup croient. Allez mettre ça. On doit croire, affirmation. On ne peut pas croire, négation. Et on croit, on dépasse. Le dépassement. Ça, c'est la manière dont Saint Jean regarde tout le temps. Il nous met face à la limite pour voir que Dieu a déjà dépassé la limite. Mais il est important, non pas seulement que Dieu l'ait dépassé comme une idée, comme un principe, il est important que Dieu l'ait dépassé dans la réalité de la chair. comme un homme, d'où l'importance du terme fils de l'homme. Cependant, nombreux d'entre les chefs aussi, donc d'entre les pharisiens, d'entre les juifs, d'entre les notables, d'entre les mauvais pasteurs, beaucoup crurent vers lui, beaucoup, enfin tout petit peu, mais en raison des pharisiens, ils ne le confessaient pas. C'est bien autrefois, hein. Nous croyons et ne pouvons croire, comme le dit Pierre Emmanuel, afin qu'exclus de synagogue, ils n'arrivent pas. Nous craignons toujours d'être marginalisés par notre foi. Mais notre foi existe. Mais nous est donnée. Et alors, vous avez cette révélation à la fin. Jésus cria. Oh, quand Jésus crie, c'est vraiment la révélation essentielle. Et il dit, celui qui croit vers moi, ce n'est pas vers moi qu'il croit, mais vers celui qui me croit. Si vous ne croyez que en Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut la garantie du Père. Une autre manière de dire, celui qui croit en Jésus devient enfant de Dieu en toute réalité, en toute vérité. Et celui qui observe ce que je dis, il observe celui qui me mandat. Moi, lumière vers le monde, je suis venu, afin que tout qui croit vers moi, dans la ténèbre, il ne demeure pas. Il est dans la ténèbre. Et si éventuellement quelqu'un entend mes paroles événements et ne les veille pas, ne les garde pas, moi je ne le juge pas. Car je ne vins pas afin que je juge le monde, mais afin que je sauve. Donc c'est une parole de salut qui passe par une parole d'endurcissement. Il n'y en a pas d'autre. À cause de nous qui sommes pécheurs. Alors, celui qui me méprise et qui ne reçoit pas mes paroles, évidemment, il y a celui qui le juge. C'est le Fils de Dieu en lui qui juge celui qui a des œuvres mauvaises. Je suis passé en lui. Et c'est mon passage à lui qui est un jugement. Celui qui le juge, c'est la parole qu'il a parlé, celui-là. Il le jugera dans le dernier jour. Il n'y a pas d'autre parole plus grande de jugement, de salut, que Jésus lui-même. Et nous retournons au prologue. En commencement, était la parole. Il a reçu la parole et la parole s'est faite chair, il l'a reçu en lui. Parce que de moi-même, je n'ai pas parlé, mais le Père qui me manda, lui me donna commandement, que dire et que parler. Et je sais que son commandement, vie éternelle, il est. Il va, j'y couvre que son commandement est vie éternelle. Je sais. Je sais de cette intuition profonde de la foi. Ce que donc moi je parle, selon qu'il m'a dit le Père, ainsi je parle. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Jésus s'efface. Il fait comme Jean-Baptiste. Il a dit ce qu'il avait à dire, et maintenant il va rentrer dans le silence. Pour nous inviter à entrer avec lui dans le silence, mais le prologue nous l'a dit dès le début. Il était tourné vers le Père et il nous l'a raconté. Je voudrais, pour terminer, prendre encore une parole que nous avons vu à propos des derniers jours que Jésus passe à Jérusalem. Et Jésus est à Jérusalem et en même temps il se cache. Jésus dit qu'il a dit la parole et maintenant qu'il va rentrer dans le silence. Dans quelques jours, c'est la Pâque. Jésus sent l'heure qui vient. Là est une partie d'attaque. moins de regard, point. Caïphe dit, s'il doit mourir, une ou deux pierres trop zélées. Tirant, crispant, greffant les doigts aux extrêmes de la terre. Il retourne au Jourdain, où Jean avait dit, voici l'agneau. André, toi, l'un des deux premiers, te souviens-tu? Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde. Tu quittas Jean et me suivis sur cette parole. Me suivras-tu où Jean l'a dit? Me suivrez-vous? Il les regarde. Si grande paix leur vient de lui, que les siens goûtent sa gloire au moment où sa mort l'entoure. Il en reçoit la pensée, comme si Dieu, dans sa douceur, lui faisait visite. C'est le soir, le sol s'allonge, le ciel debout lui sourit. Jésus fait la somme, ce petit nombre d'hommes autour de lui, et derrière eux le désert, au goût de miel sauvage. C'est juste après ça qu'il parle de sortant, si vous voulez, de cette sorte d'échec, Jésus s'est retiré de Jérusalem, il n'a plus que quelques apôtres, t'en souviens-tu? Vous souvenez-vous? Et puis, avec cette pauvreté des hommes qui ne savent pas le cueillir, il fait de la résurrection. Et ça, c'est le mystère que Jean nous apprend à regarder. Et c'est ça le sacrement. Entrer dans le sacrement qu'est Jésus, faire, je dirais presque bêtement, ces gestes de se signer, de signer un petit homme qui naît, un enfant le soir, avant qu'il aille dormir, prendre de l'huile et la mettre symboliquement sur le front, l'enfant, l'adulte. Joindre deux mains en disant que Dieu les unit pour la vie, sa vie. Simplement mettre la main sur quelqu'un en disant le Seigneur te pardonne de tes péchés, parce que lui seul peut guérir, et découvrir aussi dans l'eau de l'eau, pure, impure, comme nous pouvons la fabriquer, que dans cette eau, Dieu a voulu baigner, et nous baigner parce qu'elle signifie l'intimité du Père, du Fils dans l'Esprit. Croire tout cela, ou aller chercher un petit morceau de pain et boire quelques gouttes de vin, une coupe, en disant « Je crois Seigneur que tu es la vie et que tu oses, tellement tu es venu nous chercher, nous trouver dans les gestes quotidiens, et découvrir que dans ces gestes, il y a tout l'amour de Dieu. C'est cela, croire. Adhérer à cette présence de vie qui traverse nos bords. Car c'est vrai, nous répétons sans fin ces gestes humains. Et nous les répétons tellement qu'ils risquent toujours de se dévaloriser. Et il les remplit toujours de sa présence, au-delà de tout ce que nous croyons. Nous pouvons croire et nous pouvons croire. Et à travers tous ces gestes, pour lui, je suis tu, et non il. Croire, pour Saint-Jean, c'est ça. être nommé de toute éternité comme celui qui est comblé de l'amour, non pas seulement de l'amour de Jésus homme, il chérissait Lazare, Marie, Marc, mais être comblé de tout l'amour du Père. À peine enseigne que désormais le Fils de l'homme, c'est moi. Il a encore, Pierre Emmanuel, je ne sais pas si je pourrais le retrouver, je vous dirai si je... Tandis que lié, je tourne la roue dont l'ombre est l'horizon, tant que je suis occupé à mon métier d'homme, et je n'ai jamais fini, un homme passe à mon côté sur un chemin de Galilée. Sa parole me regarde. Nul n'est lié qu'à son mauvais moi. C'est toi ton entrave, et non point la loi. Bien que tu t'en croies la jante et l'ornière, lâche la roue, ouvre grand les bras, bondis, tu verras que la terre est légère. Marche, le sol ne te trahit pas. Marche, et pour peu que tes pieds soient fidèles, à la bonté de la terre pour toi, ils vont droit aux sources. Ta paume soit la coupe de grâce. L'eau est partout où tu y consommes.